Il est 17h07 dans un instant. Éric Lantier, notre chroniqueur politique et social, sera avec nous. Mais entre-temps, je dois vous dire que la direction de la santé publique de Montréal estime que la métropole a atteint le sommet de sa courbe épidémique. La docteure Mylène Drouin insiste tout de même sur l'importance cruciale de maintenir les mesures de distanciation physique pour éviter un recul. Comme le printemps arrive toujours un peu plus tôt à Montréal, nous considérons que le haut de la courbe épidémique doit arriver dans les jours présents, a déclaré mercredi la directrice régionale de la santé publique. Docteur Drouin prévient toutefois que ce sommet ne concerne que le nombre de cas de contamination à la COVID-19. Les cas d'hospitalisation devraient continuer d'augmenter pour une dizaine de jours puisque cela correspond à la durée nécessaire au virus pour entraîner des complications chez les patients. Le nombre de décès devrait lui aussi poursuivre sa croissance au cours du mois d'avril en raison des foyers d'éclosion dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour aînés. Et avec tout ça, ben, on peut prévoir au Québec des mois de distanciation sociale. Alors, le premier ministre François Legault, pour sa part, s'est dit optimiste quant à une réouverture graduelle des commerces prochainement. Mais il a lancé un avertissement aux Québécois. On en a pour des mois avec la distanciation sociale de 2 mètres. On va revoir un début de vie normale rapidement, a-t-il précisé, en évoquant l'ouverture de certains commerces et la relance de la construction résidentielle dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais les Québécois devront néanmoins demeurer disciplinés en continuant de respecter les consignes de distanciation sociale pour plusieurs mois, donc possiblement tout l'été. Il a ajouté qu'il fallait dès aujourd'hui réfléchir à ce que cela signifie pour les écoles et les garderies où il sera plus difficile de respecter les 2 mètres. Il n'a ainsi pas voulu dire si les établissements rouvriraient d'ici la fin de l'année scolaire. Et ce qu'il a dit, on va réfléchir à tout ça, selon François Legault. Alors, Éric est déjà là. Ah ben, c'est un homme vraiment très discipliné. Éric Lantier, chroniqueur politique et social. La discipline même. Comment ça va, Éric?
Ça va bien malgré tout. Ça et va... vous, le moral est bon?
Ah ben oui, le moral est bon. Ça va toujours bien, nous, même quand ça va mal, Éric. Ah oui, ben oui. Ah, mais je sens que vous n'êtes pas confiné, Éric.
Ben, écoutez, oui, ben, je suis dans ma voiture présentement . Et bon, c'est très rare que je sors. Je sors seulement pour aller faire l'épicerie. Et en ce moment, c'est le temps de faire l'épicerie. Et j'y vais avec mon épouse pour une raison bien simple, c'est qu'elle, elle fait l'épicerie pour ses parents. Et donc, je la dépose à un endroit et moi, je vais à une autre. Comme ça, on respecte les règles et on rend service en même temps.
Alors, c'est extraordinaire. Et là, maintenant, on a entendu, je ne sais pas, depuis ce matin, Éric m'a fait part de son sujet. Éric qui m'a dit qu'il va parler aujourd'hui de possibilité de rouvrir, de remettre le Québec sur les rails.
Oui, bien, c'est un mouvement qui, déjà depuis quelques jours, a été mis sur pied. Et il y a une pétition qui a été lancée par un mouvement qui s'appelle « Mouvement pour la réouverture du Québec ». Et dès la première journée, il y a eu 1000 signatures. Ça a été quand même un succès intéressant pour un début. Alors, on met de la pression sur le gouvernement pour que l'économie du Québec puisse être relancée, non seulement par l'achat local ou l'achat national, mais pour justement dire, bon, ben là, il est temps qu'on rouvre davantage de commerce, qu'on fasse rouler l'économie pour que les Québécois gardent espoir. Et je comprends que c'est important l'économie, puis qu'il y a des gens qui sont dans des situations précaires parce qu'ils ont perdu, soit temporairement, ou possiblement même, ils ont perdu leur emploi pour un bon bout de temps. Mais ça va être difficile à conjuguer. parce que réouvrir les commerces, réactiver, si on veut, l'activité économique, ça veut dire quoi? Plus d'interactions, plus de face-à-face, plus de possibilités de contamination. Donc, c'est un jeu d'équilibre, hein? Et même si la courbe va baisser dans peut-être 2 ou 3 semaines, il reste que néanmoins la possibilité d'augmenter le nombre d'infections demeure toujours possible. Plus que de contacts, plus que d'interactions physiques, plus que de rapprochements, mais plus qu'on peut réactiver cette courbe-là à la hausse. Et moi, j'ai parlé avec un des signataires, un des leaders qui fait partie de ce mouvement-là.
Parce que, Éric, vous n'avez pas osé signer.
Ben, écoutez, moi, j'ai pas osé signer pour une raison bien simple, c'est que c'est dans la faisabilité, dans le principe, je trouve ça intéressant. En termes de principe, moi, je suis pour qu'on relance l'économie parce que, honnêtement, ça m'attriste de voir des gens qui sont privés de revenus, privés d'emploi, privés de dignité. Je suis pas insensible à ça. Mais en même temps, c'est dans la faisabilité. Parce que pour y arriver, là, si on est pur dans le principe, pour y arriver sans créer de dégâts, ça voudrait dire qu'à chaque fois que quelqu'un est infecté, on l'amène dans une tente ou dans un, je sais pas moi, un hôpital qu'on a réservé à cet effet, et on en cabane, en bon québécois, tout le monde dans des lieux là, vraiment qui sont en quarantaine, isolés. Puis à ce moment-là, il faudrait les interviewer en disant avec qui tu as été en contact, puis tester tous ces gens-là, peut-être à tous les 2 ou 3 jours, et dès qu'il y a des symptômes, pouf, on les isole pour que les autres puissent continuer l'activité. Alors, c'est très difficile à gérer. Je comprends le principe et l'intention, mais dans la gestion, je comprends également pourquoi le gouvernement actuel a opté pour l'approche qu'il utilise en ce moment.
Alors, maintenant, effectivement, aujourd'hui aussi, on commence à entrevoir la possibilité de rouvrir le Québec, mais de manière progressive. Alors, on a commencé par laisser les commerces considérés comme essentiels en opération. Maintenant, si on me parle d'une approche progressive, la réouverture progressive du Québec, comment on va me dire à mon entreprise de rester fermée? Et puis, une autre entreprise qui n'était pas essentielle, mais passe avant moi, ça voudra dire quoi, exemple?
Exactement. Mais c'est exactement, vous rejoignez le point que je mentionne, c'est difficile à gérer tant sur le plan de la santé que sur le plan économique et les deux vont finir par se heurter parce que si on rouvre des commerces et par exemple, même si on arrivait à solutionner le problème que vous mentionnez, que vous soulevez, il va y avoir une augmentation de circulation, donc ça veut dire plus de gens dans les transports en commun, plus de contacts. Est-ce que ça veut dire que les restaurants, on pourra pas les ouvrir, mais donc les gens vont devoir aller manger. S'ils mangent, c'est dans des cafétérias. Qu'est-ce qu'on fait avec les ceux qui vont retourner travailler, qui doivent faire garder leurs enfants? Alors, c'est vraiment complexe, je ne sais pas. Certainement qu'ils se penchent sur la question pour trouver des solutions, mais j'espère que ça ne créera pas une deuxième vague et que ça ne nous amènera pas à retarder la reprise total et fonctionnel comme on l'a connu.
Parce que, Éric, on vit quand même dans une société capitaliste et ça suppose que chaque personne a ses responsabilités vis-à-vis de l'autre à côté. Et moi, je suis locataire, mais mon locataire a une hypothèque qu'il doit payer. Et si on n'avait pas tout ça, si on n'avait pas des besoins dans ce sens-là, je ne paye pas mon loyer, mon locataire ne paye pas son hypothèque, et puis tout le monde vit bien dans un monde où tout est beau, tout est parfait, on n'aurait pas besoin d'argent, n'est-ce pas? On vivrait, on mangerait, comme dans la plupart des sociétés, mais malheureusement, on n'en est pas là. Hein? Et c'est ouais. peut-être pas le genre de société dans laquelle on veut vivre non plus. Donc, il ouais. faut respecter les règles du jeu de la société qu'on a choisi, hein, mm-hmm. N'est-ce pas, ou la société dans laquelle on a choisi de vivre.
Oui, mais c'est ça. Mais donc, la solution, ce serait de placer dans les parcs des tentes où est-ce que les gens qui sont infectés sont isolés totalement de la société pour que, à partir du moment où est-ce qu'ils ne sont plus infectés et ne sont plus en mesure de contaminer les gens, là, ils peuvent retourner dans la société. Si on veut que la société reprenne ses activités, que les gens retrouvent leur salaire, puissent payer leurs comptes, il faut en arriver là. Sinon, si on se dit non, c'est trop complexe, ben on n'a pas le choix d'attendre. Et mais ce que ça produit, ça produit un autre problème, un problème économique. Ça veut dire que le pays va s'endetter et dans les prochaines années, le fardeau fiscal va augmenter. Et on va finir par payer la note tôt ou tard. Et cette crise-là va nous coûter cher, j'en suis convaincu.
Et elle va nous marquer notre génération, mais surtout les générations à venir, parce qu'il y a notre génération s'en va, et celle à venir va avoir à la payer cette crise, n'est-ce pas, que nous vivons actuellement. Merci beaucoup, mon cher Éric Lantier, chroniqueur politique et social. C'était un plaisir encore de te retrouver cet après-midi.
C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Pour l'instant, il est 17h19. On va faire une légère petite pause pour nous permettre de respirer. Au retour, on devrait avoir avec nous le professeur Donald Cucciolletta, qui est membre de la chaire de recherche Raoul Dandurand de l'UQAM et président de l'Observatoire sur les États-Unis.